Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro, je vous accompagne au cours des 30 prochaines minutes avec cette émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Le programme de procréation assistée, peut-être que vous vous rappelez, au printemps dernier, a soulevé pas mal de questions. J'imagine que c'est un débat qui va continuer de soulever des réflexions, des questionnements, parce que c'est une question qui soulève beaucoup de choses, qui atteint notre émotivité et qui touche plusieurs aspects éthiques, philosophiques, économiques, médicaux. C'est important d'en parler parce que c'est assez complexe et Judith Lucier y a pensé à ça, elle, journaliste chroniqueuse, auteure et qui vient de sortir un bouquin intitulé « L'aide à la procréation au Québec ». Je la reçois en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, la plupart des gens, que ce soit souvent, de façon quotidienne ou occasionnelle, oui, on écoute de la musique. Soit que ça prend beaucoup de place dans notre vie, soit un petit peu moins, mais d'une façon ou d'une autre, ça évoque quelque chose. La musique en nous, ça ravive des émotions, ça ravive des souvenirs également. Ça peut nous apaiser hein, quand on pense aux petits-enfants, nous défouler également. Ce que l'on sait moins, c'est que la musique, ça a un impact sur le développement de l'enfant. Et j'en parle dans quelques instants avec Guylaine Vaillancourt, elle qui a écrit un livre qui s'intitule « Musique, musicothérapie et développement de l'enfant ». Bonjour, Guylaine Vaillancourt.
Bonjour.
On va ouvrir votre micro. Merci beaucoup. Bonjour, merci d'être là. Votre livre, bon, vous êtes, et je tiens à le dire, vous êtes enseignante également. Vous enseignez à de futurs musicothérapeutes à l'Université Concordia. Vous êtes également vous-même musicothérapeute. Et vous avez écrit ce livre-là qui, depuis un petit bout, suscite mon intérêt. Et ce qui est assez fascinant, c'est que quand on parcourt le livre, on se rend compte que la musique, les sons, tout ce qui est en rapport avec l'environnement sonore, ça a un impact assez rapidement dans la vie.
Oui, bien, la musique, c'est vrai, comme vous l'avez dit en introduction, ça fait partie de nos vies depuis qu'on est tout petit. Et la musicothérapie comme telle, c'est d'utiliser ce pouvoir-là de la musique, c'est les outils qui sont de la musique sous toutes ses formes pour justement rejoindre des enfants ici dans ce cas-ci qui auraient des besoins particuliers et qui peuvent, par exemple, ne pas pouvoir communiquer verbalement ou ils ont des difficultés au niveau d'approche sociale ou d'interaction. Donc, on va essayer avec la musique de travailler au niveau cognitif, au niveau social, au niveau émotionnel.
Mais dès dans le ventre de notre mère, on a la perception des voix, la perception des sons ou de la musique, si on l'entend ou elle nous est chantée.
Oui, il y a des recherches qui sont faites depuis plusieurs années où on sait que l'enfant perçoit des sons. Évidemment, ils vont être perçus différemment parce que c'est à travers les liquides amniotiques. Mmh. Mais il y a quelque chose déjà qui se passe au niveau du développement de l'audition, de l'ouïe, quand même dans certainement dans les derniers mois de l'année. Avant la naissance.
Mm-hmm. Dans votre livre, vous dites que la musique, c'est un langage inné. Ça veut dire quoi, ça?
Bien, ce qu'on veut dire par là, c'est que quand on regarde un tout petit enfant, déjà, il va commencer à faire des sons, il va commencer à bouger. Et la musique, c'est fait de rythmes, de sons mélodiques et de d'autres éléments. Et c'est pour ça qu'on dit la musique est souvent un langage qui est préverbal, qui va aider à construire le langage, construire la socialisation. Donc, c'est un type de langage où on n'a pas besoin de passer par des concepts cognitifs ou intellectuels avant de pouvoir s'exprimer.
Uh-huh. Et la musique a également un rôle à jouer dans le développement du lien d'attachement avec son parent. Et c'est clairement dit dans le livre, et je trouvais ça important de le mentionner également. chanter des chansons à vos enfants, que ce soit avant la sieste, avant l'heure du dodo, parce que ça crée un lien qui est important.
Oui, et c'est pas simplement la chanson, c'est l'intention dans la voix, c'est l'intention dans le lien ou le pont qu'on fait avec l'enfant. Donc, vous n'avez pas besoin d'être musicien ou d'avoir une voix travaillée. c'est simplement de faire des sons pour l'enfant, de chanter aussi des berceuses dont vous changez les mots, puis que vous allez inclure, par exemple, le nom de l'enfant, le nom de ce que l'enfant a fait dans sa journée. Donc, c'est un peu un moyen de transmettre un message ou de transmettre l'affection, l'amour qu'on a pour les enfants. Donc, la musique est un bon véhicule pour ça.
Et ça, on peut le faire quoi, dès la naissance avec notre petit?
Tout à fait, oui, tout à fait, parce que c'est là aussi où que le lien se développe, évidemment. Puis à travers la chanson, par exemple, ici on parle, exemple, des berceuses, bien, c'est une manière de, déjà de créer ce lien-là avec l'enfant, parce qu'on parle plus à son cerveau qui est plus primaire. Déjà, il commence simplement son développement, mais ce type de message-là, il peut le percevoir sans nécessairement avoir à l'analyser. C'est quelque chose qu'il va percevoir instinctivement.
Mm-hmm. Et maintenant, bon, on parle de l'impact de la musique sur le développement de l'enfant. Bien sûr, en ce qui a trait au développement de l'enfant, il y a plein de niveaux, il y a plein de plans. On parle du plan moteur, du plan affectif, cognitif. Si on voulait s'adresser aux parents qui nous écoutent et de parler des bienfaits de la musique sur le développement de leur enfant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Sans, bien sûr, on peut pas faire un résumé du livre parce que il y a beaucoup de notions qui s'y sont véhiculées, mais quel serait le message à faire ressortir?
Bien, je pense que c'est bien d'exposer les enfants à la musique. Alors, on peut parler d'écouter de la musique, mais on peut parler aussi de jouer de la musique. Mm-hmm. L'important, c'est de respecter leur niveau de développement, un peu comme un dosage. On veut donner quelque chose qu'ils sont capables de soutenir selon leur âge. On va choisir une musique plus simple, des comptines, des chansons traditionnelles qui sont très simples. Et ce que ça fait aussi, c'est que ça travaille au niveau de la mémoire, au niveau que l'enfant va peut-être pouvoir aussi rechanter ces chansons-là. On peut ajouter des mots encore. C'est une manière de développer les apprentissages. Mais on veut, selon l'âge, rester au niveau de la simplicité. Une chose aussi qui est importante pour les parents, c'est d'avoir des instruments de musique de qualité. On ne recommande pas les instruments de plastique ou jouets parce que la sonorité peut être trop aiguë, trop agressante pour les enfants. Ils ne vont pas pouvoir vous le dire, mais souvent, ils portent les hochets ou des instruments comme ça à leur oreille. Et ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux pour le développement de l'oreille. Donc, il y a des instruments qui sont en bois ou des instruments qui sont plus des petits tambours, mais qui sont... Et maintenant, il y a des séries d'instruments de musique qui sont faits justement pour la musicothérapie, mais qui pourraient être utilisés par les parents, qui ont des fréquences moins hautes et qui sont adaptées pour un peu tout le monde.
Et du point de vue financier, c'est quand même abordable, des instruments de qualité?
Il y a de tous les prix, mais ce qu'on peut dire, c'est que ces instruments-là, ils vont être là pour la vie.
Ah oui.
Donc, par exemple, il y a un instrument qu'on appelle un tamboa. C'est un instrument en bois avec un son d'une belle douceur, d'une profondeur. Et puis, c'est un instrument qui est attirant. Donc, cet instrument-là va être là pour toujours. On sait, les instruments plastiques jouets, les enfants s'en...
Oui, s'en désintéressent, peut-être. Ça. Donc, une bonne idée de laisser traîner dans le salon, dans la salle de jeu, des instruments. Est-ce qu'on doit encadrer l'utilisation de l'instrument chez l'enfant ou on laisse explorer par lui-même?
Bien, écoutez, on peut l'explorer avec l'enfant, évidemment, mais encore là, on veut voir de quelle manière il utilise l'instrument. S'il est sur l'instrument toute la journée, évidemment, bien, peut-être qu'on veut encadrer un peu plus parce que ça peut être trop de stimulation à ce moment-là. On ne veut pas surstimuler les enfants, quel que soit le médium qu'on va utiliser. Donc, il faut respecter aussi le développement de l'oreille, avoir un équilibre au niveau des sons qui sont offerts à l'enfant.
Mm-hmm. Et j'imagine que manipulation d'un instrument amène aussi tout tout ce qui est développement moteur, la dextérité, la motricité fine aussi.
Oui, c'est pour ça quand on dit que c'est au niveau du développement global, il y a tout ce qui est du côté physique, motricité, latéralisation, coordination, parce que ça demande énormément de jouer d'un instrument de musique.
Ouais.
Et il faut savoir aussi, si je reviens un peu à la musicothérapie, les personnes qui participent n'ont pas besoin d'être musiciens. C'est pour ça qu'on utilise principalement des instruments à percussion qui sont plus mélodiques ou des instruments rythmiques assez simples. Oui, ça développe au niveau de la motricité, au niveau de l'amplitude. On peut travailler tout ce côté-là. Et en même temps, on travaille, si on regarde du côté plus social et on fait un groupe en musicothérapie avec des enfants, bien, ça va être de jouer avec un autre enfant ou d'échanger ou de partager des instruments. Donc, c'est des compétences sociales qui peuvent se transposer dans leur quotidien aussi,
oui.
On veut voir.
Et qui peut se faire, comme vous le disiez, Guylaine Vaillancourt, dans le quotidien de l'enfant, mais aussi sous forme de thérapie, et on s'en approche parce que votre livre s'appelle « Musique, musicothérapie et développement de l'enfant ». On veut parler également de musicothérapie. Ce que je vous disais tout à l'heure avant qu'on ouvre les micros, c'est que c'est pas nécessairement évident pour tout le monde ce qu'est la musicothérapie. Vous êtes là pour nous en parler. Qu'est-ce que c'est, finalement?
Bien, c'est une forme de thérapie qui utilise la musique. Donc, il faut être thérapeute pour pouvoir pratiquer la musicothérapie. Tous les musicothérapeutes sont musiciens au départ. Ils ont une formation universitaire en musique et ensuite, ils ont des cours en psychologie, des approches spécifiques à la musicothérapie au niveau des techniques d'improvisation, de composition. On travaille beaucoup avec la chanson, avec le piano, la guitare et la voix. Donc, c'est une profession selon avec la clientèle avec laquelle on travaille, ça va peut-être de maintenir les habiletés ou d'améliorer ou de rétablir des habiletés que l'enfant aurait perdues, par exemple, si on travaille en réadaptation. On va beaucoup travailler en déficience intellectuelle, en autisme. On va travailler avec les enfants qui ont des troubles de comportement, de l'hyperactivité, parce que la musique comme telle, elle a une structure qui aide l'enfant à se réguler ou à s'organiser, à se structurer. Et c'est aussi un moyen où ils ont un succès. Donc, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise musique. Ils sont acceptés de manière inconditionnelle dans ce qu'ils ont à offrir. Et nous, on est là pour mettre le cadre, pour justement travailler sur des objectifs précis. Il faut savoir qu'on rencontre toujours les enfants au départ en musicothérapie pour faire une évaluation. Qu'est-ce qu'ils présentent comme force, comme point à travailler? On ne veut pas nécessairement savoir s'ils sont bons en musique. On va regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec la musique, mais comment ils utilisent les instruments. Donc, on va mettre les instruments de musique. On va voir quels instruments les attirent, de quelle manière ils jouent avec les instruments. Ensuite, à partir de là, on fait un plan d'intervention qui va nous aider à diriger à travailler sur des objectifs précis. On va souvent travailler en équipe, si on est dans une école, si on est dans un spécialisé ou dans un hôpital. Donc, toute l'équipe travaille vers un but, mais notre moyen, nous, c'est la musique pour y arriver.
Donc, vous alliez vos forces avec l'ergothérapeute ou le psychologue ou l'enseignante de l'enfant.
Oui, tout à fait, parce qu'on veut être tous
sur la même
longueur
d'onde,
c'est toujours ça qu'on veut dire, pour justement, pour le bénéfice de l'enfant. Sauf que notre évaluation est spécifique, la musicothérapie, et notre approche est spécifique aussi.
Ce que j'ai appris à travers votre livre, Guylaine, c'est que la musicothérapie, c'est une approche qui est assez globale. Ça vise plein d'aspects. C'est quoi les bienfaits que l'on peut voir chez l'enfant? J'imagine que ça dépend. Il y en a pour qui les effets sont très rapides. J'imagine que pour d'autres, c'est plus long.
Oui, et vous avez raison. Ça dépend du contexte. Ça dépend de la condition de l'enfant. Si on travaille avec quelqu'un qui a une déficience intellectuelle sévère, bien, on va peut-être l'aider à se mobiliser un peu plus au niveau de l'investissement du groupe. Mais encore là, selon sa condition, on sait qu'on ne va pas rétablir sa condition plus régulière. Donc, pour certains enfants, on va avoir un progrès assez rapide, je vous dirais, chez les enfants autistes, où ils vont avoir souvent des réponses spontanées par la musique. Ils vont commencer à chanter, ils vont commencer à parler. Évidemment, tout dépend encore de la capacité de l'enfant à développer ou maintenir ses habiletés.
Ouais.
Donc, oui, il y a des bienfaits au niveau de diminuer l'anxiété, au niveau
de l'estime
de soi,
ah, oui.
Évidemment, la confiance en soi, parce que quand on travaille en musicothérapie, ils développent ce sentiment-là. Donc, quand ils retournent en classe ou dans la famille, ils ont cette confiance. Donc, ils vont prendre plus d'initiatives, ils vont avoir envie d'essayer des nouvelles choses, d'explorer un peu plus. Donc, ça, c'est certains des bénéfices. Si on travaille autant quand même en oncologie, soins palliatifs avec les enfants.
Oui, sur la douleur,
oui.
Hein, je lisais ça, la musique apaiserait la douleur.
Mais dans le fond, c'est un mécanisme plutôt physiologique. La musique peut augmenter la production d'endorphines quand on en écoute, quand
Mais
on
oui.
a du plaisir à en jouer. Et l'endorphine, c'est un peu la morphine naturelle, si on veut, qui aide à diminuer la douleur.
Mm-hmm.
C'est aussi une manière de fractionner la tension. La tension n'est pas sur la douleur, mais sur un jeu musical avec la musicothérapeute. Donc oui, selon la clientèle avec laquelle on travaille, les bienfaits sont variés.
Et j'imagine aussi qu'il y a des bienfaits, et on a parlé beaucoup des enfants qui vivent avec l'autisme, parce que dans ce lien à créer avec l'autre, parce que pour créer de la musique, souvent, oui, on peut jouer de notre instrument seul, mais souvent, quand on veut créer une mélodie, on a besoin des autres. Donc, on doit arriver à créer ce lien, ce contact-là.
Oui, puis ce qui est extraordinaire, souvent, pour les enfants, peut-être qu'un enfant est simplement capable de faire quelques notes sur un instrument, il va vocaliser, par exemple, et nous, on est musicien, donc on va aller au piano ou à un instrument harmonique, et on va jouer dans la même tonalité, on va structurer, on va ajouter des accords, on va ajouter des éléments musicaux qui fait que ça devient une pièce musicale pour l'enfant. Et la musique est comme un miroir pour eux à ce moment-là. Ils peuvent recevoir ce qu'ils ont d'abord eux-mêmes créé.
Oui, oui. Et je ne peux pas m'empêcher, il y a également ce sentiment-là qui doit être assez chouette pour des jeunes, le sentiment d'identification, souvent avec des idoles, des stars, de la musique qu'ils adorent. Donc, de dire, moi aussi, je suis comme, je ne sais pas, Justin Bieber ou je ne sais pas qui, l'idole des enfants maintenant, mais ce sentiment-là, un petit peu d'appartenance et qui doit être extrêmement gratifiant pour eux.
Tout à fait, en particulier avec des jeunes adolescents ou des jeunes qui ont des troubles d'hyperactivité ou des déficits d'attention. J'ai vu des musicothérapeutes travailler à composer des rap ou hip-hop ou cette musique-là, puis c'est eux qui mettaient les paroles dessus et qui parlaient de leur réalité, et puis c'était extraordinaire. Ils étaient attentifs pendant presque une heure, là, sans aucun problème de comportement parce qu'ils étaient complètement captivés.
Oui. En terminant, Guylaine Vaillancourt, on fait comment pour trouver un musicothérapeute?
Bien, c'est important d'avoir quelqu'un qui a la formation universitaire et qui est accrédité par l'Association de musicothérapie du Canada. Donc, vous contactez l'Association québécoise de musicothérapie qui a tous les noms des musicothérapeutes accrédités. C'est très important parce que vous pouvez avoir le meilleur musicien du monde qui n'a pas la formation de thérapeute et qui peut faire plus de dommages que de bien.
Oui.
Et quand on parle de l'association, on a un code d'éthique, on a une association professionnelle. Et aussi, vous pouvez contacter l'Université Concordia dans le programme de musicothérapie et je peux aider aussi à diriger les personnes qui auraient besoin de services.
On mettra tous ces liens-là sur notre site. Ce sont les portes ouvertes du côté de Concordia?
Oui, tout à fait. Samedi, le 8 novembre, c'est sur le site web de l'Université Concordia. Et le 15 novembre aussi, on fait une séance d'information en musicothérapie.
Guylaine Vaillancourt, vous êtes l'auteur de Musique, musicothérapie et développement de l'enfant. C'est publié du côté des éditions du CHU Sainte-Justine. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
Merci.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Bonjour Judith Lucier.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, merci d'être là. Judith, je le disais d'entrée de jeu, l'aide à la procréation assistée, c'est un débat qui est légitime, bien sûr, mais qui est plutôt complexe. Et on vous remercie d'avoir écrit ce petit livre de 75 pages. C'est publié chez VLB, éditeur L'aide à la procréation au Québec. Ça se lit en une heure. Oui. J'ai fait l'exercice. Et ça permet de mettre les grandes balises, en fait, d'expliquer, de faire le tour sur ce questionnement-là, qui, pour vous, a été motivé par ce tollé autour de l'affaire du couple Legendre-Bombardier. Ça a sorti au printemps dernier. En fait, c'était tout ce qui soulevait la venue de ces jumelles qui, le couple avait eu recours à une mère porteuse, donc
À une ovule achetée aux États-Unis.
Aux États-Unis.
Leur sperme était mélangé, donc...
C'était vaste déjà là. Ça vous a touché beaucoup.
Tous les enjeux de la procréation assistée en ajoutant ça que la gestatrice avait eu droit à un remboursement de l'État. Donc, ça recoupait tous les enjeux qui sont liés à la question de la procréation assistée au Québec.
Et ça vous a touché assez pour écrire un livre là-dessus?
Oui, j'ai écrit quelques chroniques à ce sujet-là et j'ai eu l'impression à un moment donné que le sujet méritait un tour d'horizon. Hein. Chaque chronique abordait un des 3-4 angles de cette question-là, mais j'ai eu le sentiment très rapidement qu'il fallait aller au fond des choses et donc dresser un portrait à 360 degrés de cet enjeu-là qui est multiple et qui est complexe.
Oui, et qui touche beaucoup d'aspects.
Oui, puis parce qu'on simplifie, si on ne s'y connaît pas très bien en matière de procréation assistée, on va simplifier à outrance parce que, la raison qu'on donne pour justifier le fait que l'État rembourse les démarches de procréation assistée, c'est que autrefois, quand on avait recours à la fécondation in vitro, ça coûtait très cher. C'est des interventions qui coûtent aux alentours de 10 000 $ par intervention.
Et ça ne marche pas du premier coup.
Souvent, les gens devaient s'hypothéquer pour avoir droit à deux ou trois cycles de fécondation in vitro. Et donc, pour maximiser le taux de réussite de du processus, allait implanter, par exemple, 2, 3, 4 embryons, ce qui donnait lieu à des grossesses extrêmement dangereuses. Et les gens se disent, on a qu'à interdire cette technique-là qui est agressive, qui a des résultats dangereux pour la santé.
Mais si on l'interdit, ça coûte plus cher.
Mais si on l'interdit, ça fait en sorte que les couples qui veulent recourir à la fécondation in vitro et qui ont des moyens limités, vous savez, quand on paye pour sa démarche de fécondation in vitro, on veut des résultats, c'est compréhensible, vont aller à l'extérieur dans des juridictions voisines où là, on leur interdit pas d'avoir recours à des techniques plus agressives, vont revenir au Québec avec leurs problèmes de santé liés à ces techniques-là et donc on n'aura pas résolu le problème. Donc, c'est ça, en fait, que je voulais... c'est de cette question-là dont je voulais faire le tour parce que c'est pas simple comme problème à régler.
Oui. Et il y a aussi un autre concept qui est abordé dans le livre dont je n'avais jamais entendu parler. C'est ce concept d'infertilité sociale. Mmh. On connaît l'infertilité dites plutôt médicale. Mm-hmm. Ça va, on comprend bien l'enjeu, l'ampleur également. Mais l'infertilité sociale, vous avez vraiment un point de vue là-dessus plutôt nouveau, je dirais.
C'est une expression qui a été apportée dans le débat un peu pour cerner, pour distinguer deux clientèles des cliniques de fertilité, les clientèles traditionnelles de personnes victimes d'infertilité médicale et une autre clientèle constituée soit des célibataires ou des couples de même sexe qui, biologiquement, n'ont pas nécessairement, quoi qu'ils peuvent en avoir, des difficultés reproductives. Donc, leur infertilité découle de leur orientation sexuelle ou de leur statut matrimonial. Et je trouve que ça pose problème, cette distinction-là, parce que ça exclut des clientèles qui, au fond, ne peuvent pas changer rien à leur situation. Et aussi, À peu près toutes les causes d'infertilité sont sociales. Mais surtout, ce que ça apporte, comme je trouve que c'est inutile comme distinction, parce que de toute façon, les raisons pour lesquelles on facilite la procréation assistée de toutes les clientèles, c'est pour réduire le taux de grossesse dangereuse. Donc, mm-hmm. c'est vraiment... Ça décentre le débat de la question réelle, qui est une question de prévention en soins de santé.
Mais selon vous, est-ce que l'aide à la procréation assistée, médicale, assistée, c'est accessible pour tout le monde? Est-ce que ce débat-là, ce qui s'est passé en avril dernier, ça nous a permis de dire, OK, bien sûr, on avait l'impression que, d'entrée de jeu, c'était plus accessible pour des couples hétéros, mais infertiles, mais est-ce que maintenant...
Le programme rend les techniques très accessibles. Il n'y a aucune discrimination en ce moment qui est faite auprès des femmes célibataires, des hommes célibataires, des conjoints de même sexe. Mm-hmm. Quoique au niveau des hommes célibataires, c'est un petit peu plus compliqué là, pour des raisons techniques. S'il y a un problème d'accessibilité, à la limite, c'est en région. Par contre, le mm-hmm. programme était menacé. On sait que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, alors qu'il était directeur de la Fédération des médecins spécialistes, avait déjà déclaré qu'il était contre ce qu'il appelait un bar ouvert, c'est-à-dire qu'il trouvait que le programme manquait de balises, était trop permissif, ciblait trop large. Et maintenant qu'il est ministre, par contre, les dernières nouvelles qu'on en a eues, c'est qu'il avait tenu compte, il allait tenir compte du rapport de la commission au bien-être et à la santé qui recommandait le maintien du programme avec quelques ajustements administratifs. Par contre, on apprenait lundi que le centre de fertilité du CUSUM avait toujours pas de place dans les nouvelles installations du CUSUM. Donc ça, c'est un peu inquiétant là, pour l'avenir du programme. Mais aux dernières nouvelles, le ministre semblait ne pas avoir l'intention de couper le programme.
Donc, le livre continue à s'inscrire dans l'actualité, Judith Lucier. Le temps file, on n'en a presque plus, mais je réinvite les gens à aller lire, à aller se procurer l'aide à la procréation au Québec. C'est publié chez VLB Éditeur. Et puis, on peut continuer à vous lire dans le journal Métro.
Je vais continuer à suivre ce dossier-là de près, effectivement, dans mes chroniques.
Et je pense qu'on continuera en parler parce que ça touche tellement d'aspects, que ce soit plus du point de vue émotif ou aussi médical. On aurait pu parler aussi de tout l'impact de la santé sur la santé des femmes.
La question des mères porteuses.
Tout à fait.
Qui est délicate.
Mais on peut lire le livre pour en savoir davantage. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Eh bien, merci à Rémi Hermoso. C'était son baptême à la console aujourd'hui, Rémi. Merci beaucoup. Tu as fait ça en champion. Marianne Paquette au micro. Ben, nous, on se redonne rendez-vous demain. Vous pouvez nous suivre au www.canalm.org. Et puis, on est toujours présents sur Twitter, sur Facebook. 1-800-361-0635, poste 220 pour me joindre. Toujours un plaisir de vous entendre. Je vous embrasse. On se reparle demain. Bye-bye.